Magnifique. Merci Olivier, merci Stéphane, Dieu vous bénisse. Merci. Je pense que la pile est un petit peu au bout. J'espère qu'on va arriver jusqu'à la fin de la prédication, je ne sais pas. Hein? Non, il y a un tout petit bout de barre de rien du tout, je ne sais pas. Bien, eh bien, écoutez, on va prier et puis on va continuer notre culte. Seigneur notre Dieu, nous te remercions pour ce moment béni durant lequel nous allons pouvoir plonger nos cœurs et nos regards dans ta parole afin d'éclairer nos vies. Je te demande, mon Dieu, que tu nous donnes à chacun bon courage et que nous puissions relever la tête dans toutes les épreuves et difficultés. Merci Jésus. Amen.
Amen.
Amen. Bien, ce matin, je vais prêcher pour la première fois avec ma nouvelle Bible. Vous êtes tous au courant, vous qui venez sur Révélation Bible, qu'il y a une nouvelle Bible qui est sortie qui s'appelle Archéos, qui est vraiment magnifique. Et je vous la recommande. Je sais que certains chrétiens vont crier au secours parce qu'il y a des photos dedans, et des photos de choses qui sont gréco-romaines, et voilà. Ils vont dire peut-être que c'est de l'idolâtrie dans les photos dans la Bible. Ben voilà. Enfin, bon. Moi, je ne me laisse pas influencer par ces choses-là. J'aime l'instruction. On va lire dans Jacques, chapitre 1, verset 18, s'il vous plaît. Conformément à sa volonté, il nous a donné la vie par la parole de vérité, afin que nous soyons, en quelque sorte, les premières de ses créatures. Amen. Merci Seigneur. Que Dieu bénisse toutes ces choses que je vais dire ce matin et que nous puissions nous en réjouir. Ça fait déjà quelque temps que je vous prêche au sujet de la divinité de Jésus et de son humanité. Si Jésus n'avait pas été parfaitement humain, qu'aurait-il pu comprendre des souffrances de tous les malheureux qui venaient auprès de lui, hein? Bon, on nous dit parce qu'il est divin, il peut tout comprendre. Mais il s'est fait homme et il a vécu ces choses, il a ressenti ces choses. Comment est-ce qu'il aurait pu accepter de faire le sacrifice de sa vie pour ouvrir à toute l'humanité le chemin vers Dieu, notre Père? Il fallait qu'il soit humain. Et c'est pour ça qu'il s'est fait homme. Amen. Ça va, chérie? On attend quelqu'un. D'accord. Sa compassion s'étendait à tous, alors qu'il était sur terre. Et elle s'étend encore à tous. Maintenant qu'il est débarrassé de sa condition mortelle, de sa condition donc humaine, il a vraiment porté les souffrances humaines, toutes les souffrances humaines, et il s'est débarrassé maintenant de cette enveloppe charnelle, mortelle, et je suis sûr qu'il est très content, parce que c'est difficile de vivre dans ce corps. Non, vous ne trouvez pas? Il y a des moments où c'est difficile. Quand on est jeune, ça va, mais quand on vient vieux, ça commence à être pénible. Hein, les vieux? Ouais. Jésus est venu et il a ouvert une porte. Et ceux qui entrent par cette porte, ils peuvent marcher sur le chemin. Jésus a dit, hein, il y en a qui ne trouvent même pas la porte. Il y en a qui trouvent la porte, ils ne trouvent pas le chemin derrière. Et c'est un chemin où personne ne pouvait marcher avant. C'est clair. Nous étions, avant Jésus, des humains perdus, des humains qui ne savaient rien de leur filiation divine. On le pressentait, les poètes le pressentaient, les prophètes en parlaient, mais même les religieux du temps de Jésus étaient choqués quand Jésus-Christ parlait de Dieu en disant qu'il était son Père. Ça les choquait. Depuis que Jésus est venu, nous savons, par lui, que Dieu est notre Père. Maintenant, c'est bon. On a cette assurance ferme que nous sommes aimés du Père, que nous pouvons être réconciliés avec le Père, non pas en faisant des œuvres, non pas étant fidèles à une religion ou à une autre. Enfin, si on fait partie d'un groupe, c'est quand même bien d'être fidèle. La fidélité, c'est une des vertus chrétiennes, non? Donc, voilà. Mais en étant... Et puis, ça ne veut pas dire non plus qu'on peut faire n'importe quelle mauvaise œuvre, hein? On n'est pas sauvé par les œuvres, mais on peut être perdu par nos œuvres. D'accord? C'est clair. Mais en vivant selon et par l'Esprit de Dieu, par le Saint-Esprit n'est rien d'autre que l'Esprit de Dieu. Vous êtes bien d'accord avec moi? Donc, si on vit par cet Esprit qui vit en nous, alors à ce moment-là, nous pouvons avoir cette assurance, parce qu'il témoigne à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Et nul ne vient au Père à moins d'être attiré par lui. Donc, si la personne de Dieu le Père est attirante pour vous, c'est qu'il correspond à votre nature de fils de Dieu. Ça, vous pouvez en être certain. Mais bon, il y a plusieurs degrés. Alors, vous avez des gens qui sont plus ou moins saints, plus ou moins consacrés, plus ou moins travailleurs dans... Mais il y aura aussi des degrés de gloire. Je vous ai enseigné toutes ces choses-là. Mais il ne faut pas remettre en question votre filiation divine, tout simplement parce que vous ne ressemblez pas à tel et tel saint. Quand je dis saint, je veux dire homme ou femme de Dieu qui est sauvé, qui fait ceci ou qui fait cela. Moi, si je me compare à Osborne ou à Raphaël, je me sens un tout petit minable et j'ai envie de disparaître dans un trou. Mais ça ne veut pas dire pour ça que je ne suis pas un enfant de Dieu. Hein? Je suis un enfant de Dieu. Jésus est venu pour nous apprendre tout cela et il est venu pour payer le prix qui nous donne accès à cette connaissance. C'est une connaissance. On ne peut pas comprendre cela sans que Dieu nous ouvre l'esprit. Et là, il est dit dans Jacques, il nous a donné la vie par la parole de vérité. C'est par la parole de vérité, c'est par la connaissance de la parole de vérité. Alors, il ne suffit pas de dire la parole de vérité, c'est Jésus. Jésus, il a parlé, il a dit des choses, et c'est par la connaissance de ce qu'il a dit, n'est-ce pas, que, en quelque sorte, nous sommes transformés, et puis, alors, de gloire en gloire, ça ne vient pas d'un coup, hein, heureusement, parce que si ça vient d'un coup, la vie est ennuyeuse après sur la terre. Non, nous sommes transformés de gloire en gloire, et ça vient petit à petit. Et nous sommes contents de pouvoir vivre une vie de progression. Et cette connaissance étant acquise, ça s'arrête donc pas là. Il vient en nous, pour habiter en nous, et il nous accompagne chaque jour, dans les bons comme dans les mauvais jours. Il est là, toujours, je suis avec vous, tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Et Dieu le Père a envoyé son Fils unique, Jésus, et Jésus a créé quelque chose de nouveau, une famille divine dont il est le frère aîné. C'est ce que nous voyons tout au travers du Nouveau Testament et des prophéties de l'Ancien Testament. Et ce texte dit que il nous a donné la vie par la parole de vérité afin que nous soyons en quelque sorte les premières de ses créations. C'est-à-dire nous sommes, il a pas seulement créé dans la Genèse, il a commencé à créer quelque chose de nouveau par sa mort et sa résurrection. Et qu'est-ce que c'est qu'il a créé? Nous! On est quelque chose de spécial, on est une nouvelle création sur la terre. Amen, c'est pas merveilleux? Ben bien sûr c'est merveilleux. Un véritable fils de Dieu, une véritable fille de Dieu, peut se manifester comme Jésus, étant rempli du même Saint-Esprit. Et depuis que Jésus est venu sur la terre, et qu'il est remonté au ciel, Dieu le Père continue d'envoyer des fils et des filles. Jésus est le Fils unique, comme je vous ai prêché, dans le sens qu'il est unique en son genre, mais Dieu n'a pas qu'un fils, il a beaucoup de fils et de filles. Nous sommes ses fils et ses filles, et Dieu continue d'envoyer ses fils et ses filles sur la terre. Et aujourd'hui, on pourrait dire, par exemple, si on continuait à décrire le livre des Actes des Apôtres, Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé de nombreux fils, et parmi eux, Raphaël Duval, le Gitan, afin que quiconque croit ce qu'il dit ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. N'est-ce pas la vérité? Bien sûr que c'est la vérité. Sans ces hommes et ces femmes de Dieu qui enseignent aux gens véritablement la vérité, il ne pourrait pas y avoir Jésus ne pourrait pas prolonger ses jours, parce qu'il les prolonge au travers de nous. Mais comment sauront-ils si personne ne va leur dire? Si Raphaël n'était pas venu me dire, si j'étais pas venu vous le dire, comment? Où est-ce que vous seriez? Hein? Voilà la question. Donc maintenant, il faut faire continuer cette œuvre. Il faut continuer, d'une manière ou d'une autre. La mission de Jésus était de venir nous montrer comment un homme et une femme peut vivre lorsqu'il est en communion avec Dieu. Et il est venu pour se sacrifier, en ça il est unique, il n'y a personne qui peut se sacrifier pour les autres. C'est lui qui s'est sacrifié pour notre salut, on peut se sacrifier pour les autres, pour toutes sortes de choses, mais on ne peut pas se sacrifier pour les autres, pour leur salut. Il n'y a que Jésus qui est venu pour se sacrifier afin que nous soyons sauvés, afin que nous puissions vivre comme il a enseigné, afin que nous puissions plaire à Dieu le Père. En cela, il était le Fils unique, unique en son genre. Il n'y a pas d'autre personne qui peut donner sa vie pour vous, afin que vous soyez sauvés. Hein? Ça, c'est clair. Mais il a d'autres fils qui font d'autres choses. Personne d'autre que lui ne peut s'offrir en sacrifice, je le répète bien clairement, pour le salut de l'humanité. Pas, ni la Vierge Marie, ni Saint Machin, ni personne. Mais tous ses fils peuvent être et faire ce qu'il était et ce qu'il faisait en dehors de ça. D'accord? C'est clair? Et tous ses enfants, tous les enfants de Dieu venus sur la terre ont cette mission de contribuer au salut de ceux de la famille de Dieu par leur témoignage vivant et par leur témoignage parlé. Et on peut contribuer au salut de ceux qui sont enfants de Dieu et qui sont perdus ici sur la terre en allant prêcher, en soutenant financièrement des serviteurs de Dieu pour qu'ils puissent aller prêcher, en se faisant baptiser pour ceux qui sont dans le séjour des morts. Tout ça, c'est contribuer à l'œuvre du salut en Jésus-Christ telle que la Bible nous l'enseigne. Je remercie le Seigneur que dans cette Bible, cette nouvelle Bible qui est sortie, il y a un article, ils ne disent pas qu'ils comprennent tout ce que cela veut dire, le baptême pour les morts, mais au moins ils disent que l'apôtre Paul n'était pas contre. Au moins ils ont cette honnêteté. Donc je trouve que c'est bien. Alors que Dieu bénisse ces gens qui ont fait ça. Ils ne comprennent pas encore ce que ça veut dire, mais ça viendra peut-être, peut-être. Mais bon. En tout cas, Dieu nous l'a confié et nous sommes fidèles dans la chose. Dieu le Père continue d'envoyer de ses fils et de ses filles sur la terre pour cette belle et grande mission de contribuer au salut de ceux de la famille de Dieu qui sont sur cette terre et qui sont perdus, comme nous étions perdus. Le 1er juin 1968, à 20h, j'étais perdu. À 20h45, j'étais sauvé. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que j'ai entendu la parole de Dieu. Voilà, c'est clair. Quand on entend la parole de vérité, on devient un enfant de Dieu si on la reçoit, si on l'accepte. Et à partir de là, on a tout un cheminement à faire. On a toute une vie à vivre pour se perfectionner, pour plaire à notre Dieu. Alors c'est vrai que nous sommes avertis par Jésus qu'il y aura des faux prophètes qui viendront parmi nous en vêtements de brebis, mais au dedans, ce sont des loups ravisseurs. Alors on doit donc se méfier. Il ne faut pas, parce que quelqu'un dit Jésus, 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 Alléluia, ça ne veut rien dire. Il a ajouté, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Ce qui signifie que nous devons développer une faculté divine qui s'appelle le discernement, pas le jugement. C'est-à-dire, bien sûr, le discernement, c'est aussi un petit peu le jugement, parce que on discerne dans le mot discernement, il y a bien l'idée de juger, mais c'est par le Saint-Esprit qu'on doit juger. Un fils et une fille de Dieu jugent de tout, nous dit l'apôtre Paul, mais pas comme les gens du monde. Pas comme les gens du monde. L'autre jour, j'ai reçu un mail, le frère, il doit m'écouter, je ne vais pas dire ton nom, mais c'est juste pour dire, pour donner une idée. Et il m'écrit que frère Branham était comme Nemrod et comme Ésaü, c'était un chasseur. C'est un très mauvais signe. Voilà. Ah bon? Quel signe? Qu'est-ce que c'est ça? Bon, Nemrod était un pourri, Ésaü aussi, mais ça ne veut pas dire que parce que Branham était un chasseur, qu'il était aussi pourri. Être un chasseur. Est-ce que c'est mal d'être un chasseur? De quoi ils vivaient les gens avant qu'il y ait des magasins? Aujourd'hui, personne ne vit de la chasse, ou presque. Mais en tout cas, beaucoup vivent de la chasse aux poissons, qui s'appelle la pêche. C'est la chasse aussi, ça. Ça s'appelle la pêche. Vous savez, vous seriez très embêtés s'il fallait que, pour nourrir votre famille, vous deviez aller comme Adam, chasser. Adam, il allait chasser, non? Il allait pas chasser. Il allait à Carrefour, hein? Ou Noé, vous croyez que Noé, comment il mangeait, lui? Il fallait bien qu'il chasse. Ou alors il avait des troupeaux, puis il bouffait ses brebis, mais de toute façon, voilà. Mais la chasse n'est pas quelque chose de mauvais. C'est vrai qu'il y a des crétins parmi les chasseurs, mais aussi des crétins parmi les chrétiens. Et il y a des milliers d'autres enfants de Dieu qui vivaient de la chasse et qui ont vécu de la chasse. Savez-vous où est-ce qu'on chasse? Moi, je sais même pas où on chasse les sandwichs au jambon ou les sandwichs au saumon. Je serais très embêté si j'étais obligé d'aller chasser les sandwichs au jambon. Je ne sais pas où ça se chasse. Vous savez, vous? Moi, je crois que c'est à Carrefour que ça se chasse, ou alors dans les restaurants. Juger frère Branham sur le fait qu'il aimait aller à la pêche ou à la chasse avec ses potes, c'est un jugement humain stupide. Je comprends qu'on puisse être contre une certaine chasse. Il y a des abrutis parmi les chasseurs. Il y a des choses qui ne sont pas bonnes, qui sont moches, qui sont laides, c'est vrai. Mais il y a aussi des choses moches et bêtes et stupides dans les églises, et il y a aussi des crétins là-dedans. Pardon, Seigneur, moi, je ne vais pas me lancer là-dedans, parce que sinon je vais me mettre en rogne. Mais il n'y a pas que parmi les chasseurs qu'il y a des andouilles. Donc, il nous faut discerner par le Saint-Esprit. et non pas par la chair. Discerner, en quelque sorte, ça vient d'un mot latin qui signifie séparer. Vous saviez ça? Ça signifie séparer, reconnaître distinctement entre le bien et le mal par un effort d'attention. C'est percevoir, c'est percevoir. Jésus est venu et il va revenir. Mais en attendant, il y a des fils et des filles de Dieu sur cette terre, envoyés par Dieu, par amour pour l'humanité, et on les reconnaît à leurs fruits. Quels fruits? Alors, si par exemple je juge les fruits de Jésus par la chair, vous voulez que je juge les fruits de Jésus par la chair? Ben, je vais vous dire, moi, qu'est-ce que je vois? Je vois l'Église catholique, je vois les croisades, je vois les guerres de religion, je vois les bûchers, je vois les prêtres pédophiles, je vois les méchantes bonnes sœurs. Elles sont pas toutes méchantes, mais bon, voilà. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est ça le fruit de Jésus? Quel résultat, mes enfants! Quel résultat! Mais ça, c'est pas le fruit de Jésus. C'est ma réflexion charnelle. Et plein de gens charnels pensent ça. Vous comprenez? Si je juge par le Saint-Esprit maintenant le fruit de Jésus, qu'est-ce que je vois? Des millions de vies changées, des millions de malades guéris, des écoles ouvertes par amour, des orphelinats offerts par amour, des hôpitaux offerts par amour, des maisons pour les personnes âgées qui sont seules par amour. Je vois quoi? Une civilisation, mes frères et sœurs. Voilà! C'est très différent, n'est-ce pas, quand on juge par l'esprit ou quand on juge par la chair. Maintenant, jugez ma vie, mes résultats, mes fruits avec votre chair. Eh ben, vous allez toujours trouver des défauts et vous allez toujours dire, ah ben, c'est pas brillant les fruits de Jonton. Ça, c'est certain si vous jugez par la chair. Mais si vous jugez un petit peu par l'esprit de Dieu, qu'est-ce que vous verriez? Qu'est-ce que vous verriez? Bon. Jésus est venu et il va revenir. Qu'est-ce qui est important aujourd'hui? C'est que nous aimions son retour et que nous travaillons comme lui, il travaillait jusqu'à son retour, le laissant vivre au travers de nous. Voilà ce qui est important. Abandonnant toutes ses rêveries au sujet de son retour, ses calculs abrutissants au sujet de la date, alors qu'il a dit lui-même, nul ne sait ni le jour ni l'heure, essayer de monter des échafaudages à la noix de coco. Stop, arrêtez, vivez, vivez, je vous en supplie. La Bible nous dit qu'il reviendra sur les nuées. Je le crois, c'est vrai. Mais je voudrais vous ouvrir les yeux sur une autre réalité au sujet de ce texte qui dit qu'il reviendra sur les nuées. Il faut que Jésus revienne sur vos nuées. Il faut que Jésus revienne sur vos nuages, sur ce qui vous empêche de voir le soleil, sur lui-même. Il faut qu'il revienne sur les nuages qui vous empêchent de voir le soleil de justice, qui vous empêchent de voir Jésus et son amour. C'est ça qui est important. Il faut qu'il revienne sur vos propres nuées, sur vos propres nuages, sur votre propre brouillard, là où vous êtes en train de tourner en rond dans des imbécilités religieuses. Il doit revenir dans la tête de beaucoup de ceux qui sont nés de nouveau et qui se sont endormis dans leur église. Je dis bien dans la tête, qu'ils deviennent de nouveau intelligents. Dans la tête, afin qu'ils voient clairement que leur petite existence est parfaitement inutile, que leur croyance ne leur sert à rien et qu'elle n'est utile à personne, parce qu'ils ont perdu la sagesse. Ils ont perdu la sagesse. Et puis, il faut que Jésus descende aussi dans leur cœur. Ça, c'était Raphaël qui disait, si vous avez Jésus dans la tête, c'est bien, mais il faut que vous vous donniez un coup sur la tête avec votre Bible pour que ça descende 30 cm plus bas dans le cœur. Il faut que Jésus descende dans le cœur afin que le cœur de Pierre devienne le cœur de chair, c'est-à-dire un cœur tendre. Ça ne veut pas dire un cœur charnel, ça veut dire un cœur tendre, quelqu'un qui peut aimer. Parce que leur cœur s'est endurci, ils se croient les meilleurs, tous se croient les meilleurs. Moi, je ne me crois pas le meilleur du tout. Simplement, j'essaye d'être le meilleur. J'essaye d'être le mieux possible pour mon Jésus. Mais je ne dis pas que je suis le meilleur. Mon Dieu, si vous m'entendez dire un jour que je suis le meilleur, je n'ai jamais dit une chose pareille. Par contre, je dis que je ne voudrais rien vivre d'autre que ce que je vis, parce que ce que je vis, cette vie communautaire, c'est ce qui est le meilleur d'après ma compréhension des Écritures. C'est tout. C'est tout. Alors, ils condamnent les autres, par exemple, sans preuve. C'est toujours sans preuve. Et quand on leur met la preuve que leurs arguments sont infondés, leur cœur est si dur qu'ils ne peuvent pas l'admettre. C'est pas qu'ils veulent pas l'admettre, mais ils ne peuvent pas l'admettre parce que leur cœur est dur. Vous savez, je vais vous dire une grande vérité, mes frères et sœurs. Ça fait depuis 68 que je connais Jésus Et j'en ai vu de toutes les couleurs, je peux vous dire, en religion. La trahison est le prolongement naturel de l'amitié fraternelle. Oui, il faut que Jésus revienne dans la tête et dans le cœur de beaucoup de chrétiens. Et alors, cette sagesse, la tête, et l'amour, le cœur, se concrétiseront là-dedans, dans le cœur et dans la tête, se concrétiseront dans leurs actes. La sagesse et l'amour, dans les actes. Et on pourra dire, ah oui, là, Jésus-Christ est revenu. Là, Jésus-Christ est revenu. Oui, il est revenu là. Alors il pourra réellement revenir chercher son épouse. Mais qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse d'une épouse qui est complètement dingo en ce moment? C'est effrayant. Il faut que Jésus revienne sur vos nuées. Jésus ne peut pas se manifester. Il ne peut se manifester que dans des êtres qui travaillent à le faire naître d'abord en eux-mêmes. C'est à chacun de nous de travailler toute notre vie pour que notre nature divine étende son pouvoir sur nous-mêmes et de mettre cette nature divine au service des autres, non pas pour détruire, mais pour construire. Et vous savez, quand Jésus était embêté dans un coin, qu'est-ce qu'il faisait? Ben, il partait ailleurs. Et à son image, puisqu'on m'embête ici, je m'en vais. C'est tout. Je ne détruis rien du tout. La communauté n'est pas détruite. Ceux qui aiment la vie communautaire viennent avec moi, c'est tout. C'est tout. Les autres, ils retourneront dans leur HLM. En Jésus-Christ, la fusion de la nature humaine et de la nature divine s'est faite en plénitude. En plénitude. Et notre vie n'a de sens que si nous devenons conscients de la nécessité de cultiver et de garder cette semence divine en nous-mêmes. Dieu est donc venu s'incarner à un moment donné dans l'histoire, il y a un peu plus de 2000 ans, et les chrétiens, depuis plus de 2000 ans, se sont pénétrés de cette grande vérité, et ils ont passé des siècles à célébrer la divinité de Jésus et à condamner ceux qui ne pensaient pas tout à fait comme eux. Mais l'exemple de Jésus, ils n'ont pas tellement cherché à le suivre. C'est ça le drame. Ils ont passé des 2 millénaires à célébrer la divinité de Jésus. Célébrons son humanité aussi, parce que c'est ça qu'on peut copier. C'est son humanité. Amen. Sa bonté, son amour et toutes ces choses qui lui venaient de sa divinité, c'est vrai. Mais nous sommes, nous aussi, fils et filles du Père, de notre Dieu. Nous avons une filiation divine, le Saint-Esprit vient à notre secours pour nous aider dans toutes ces manifestations de notre chair afin que nous puissions aimer comme Jésus aimait alors qu'il était dans la chair. La vraie foi dans le vrai Jésus doit avoir essentiellement pour but la transformation et l'amélioration de l'être humain. Et l'être humain ne peut pas s'améliorer si on ne cesse de lui répéter que le fondateur de l'Église, son modèle, est d'une autre nature que nous-mêmes. On ne peut pas avoir un modèle. On a une poule, là, elle vient picorer dans chez nous. Je ne peux pas exiger d'elle qu'elle soit comme moi. Ce n'est pas possible. Vous comprenez, mes frères et sœurs? Eh bien voilà, c'est tout le problème des chrétiens. Ils ne peuvent pas s'identifier à Jésus parce qu'ils ne voient en Jésus qu'un Dieu. Les chrétiens ne peuvent pas vraiment se dire des disciples de Jésus s'ils ne peuvent pas s'efforcer à imiter son exemple. Ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas vraiment se dire disciples de Jésus et devenir comme lui parce que ils ne réalisent pas qu'ils sont de la même nature que lui. Fils et filles de Dieu. Jésus n'a pas seulement dit « Je suis la lumière du monde », il a aussi dit à ceux qui l'écoutaient, donc à nous, vous êtes la lumière du monde. Bon, on va voir autre chose. Tout être humain a une certaine apparence physique qui permet de le reconnaître comme tel. Quand je vois Robert, je ne le confonds pas avec Rachel, parce qu'il a une autre apparence. Et devant certaines personnes, certaines formes physiques, on ne peut pas se tromper. On peut voir le caractère dans la forme du visage, dans les certaines rides. On peut voir si c'est quelqu'un qui... Ma mère, elle avait les rides du rire. parce que c'était une femme joyeuse. Et puis vous avez des gens, ils ont une tronche de cafetière, comme disait Raphaël. Je ne sais pas exactement qu'est-ce que c'est une tronche de cafetière, mais ça ne devait pas être très gai dans sa tête. Hein. On ne peut pas se tromper. Mais intérieurement, nous possédons une faculté, celle de nous identifier à ce qui existe. Hein, vous regardez un film, vous vous identifiez au héros. C'est rare qu'on s'identifie au méchant quand on regarde un film, non? Bien sûr. C'est pourquoi nous devons, de temps en temps, nous arrêter, rester dans un coin calme, pour se demander, mais à qui ou à quoi je suis en train de m'identifier? Intéressant comme question. Car ce à quoi je m'identifie, c'est ce que je vais devenir tôt ou tard. Puisque Jésus a dit « Vous êtes la lumière du monde », c'est à la lumière que nous devons nous identifier pour devenir cette lumière dans la réalité. Bon, nous le sommes, mais faut-il encore que ça se manifeste, à partir de cette étincelle qu'on a en nous, la vie, nous pouvons arriver peu à peu à illuminer notre propre être et ensuite arriver à illuminer autour de nous en apportant les mêmes bénédictions que Jésus apportait autour de lui. Ça ne sert à rien de se prétendre chrétien ou même disciple de Jésus-Christ si on ne travaille pas à réaliser ce que Jésus réalisait. Ça ne sert à rien. Il réalisait des choses qui lui permettaient de dire « Je suis la lumière du monde ». Alors c'est certain que n'importe qui peut dire « Je suis la lumière du monde » puisque Jésus a dit « Vous êtes la lumière du monde ». Voilà, j'ai levé ma main dans une réunion, je me suis fait tremper dans l'eau, j'ai été baptisé, je parle en langue, Jésus a dit « Vous êtes la lumière du monde », donc je suis la lumière du monde. N'importe qui peut le dire, mais s'il n'a pas fait le travail qui le rend digne de prononcer ces mots, il s'expose à de graves troubles psychiques, sans même en avoir conscience, un dédoublement de la personnalité, une forme de schizophrénie. Il ne suffit pas d'y croire que vous êtes la lumière du monde, il ne suffit pas de le proclamer, il faut posséder un savoir. La parole de vérité dont nous parle Jacques 1,18, un savoir qui n'est pas facile d'acquérir, la parole de vérité. Ce n'est pas un livre de recettes la Bible, mais toute la recette est dedans, mais il faut fouiller, ce n'est pas A, B, C, D, non, il faut fouiller, il faut chercher, pas simplement dans la lettre, mais dans l'esprit de la lettre. Ah, c'est quelque chose, c'est un travail, et puis ensuite, appliquer ça à notre comportement, etc., etc. Alors, en attendant, n'est-ce pas, en attendant, je pense que c'est bien de rester humble et de travailler le temps qu'il faut afin d'être capable de manifester un jour cette nature divine et pas jouer, pas faire semblant d'être la lumière. L'Église, la communauté, elle a ce but, celui d'aider les fidèles à réaliser ce travail sur eux-mêmes. Je me rappelle de cette sœur qui me disait « j'en ai marre de me perfectionner ». Ben oui, elle a dit ça au début, ben voyez, ça se termine comme ça. « J'en ai marre de me perfectionner ». Et son frère lui dit « tu nous gaves ». Ouais, voilà. J'arrêterai jamais jusqu'au bout, tant que j'aurai un peu de souffle, de vous dire « il faut travailler à ça ». C'est travailler à réaliser, il faut réaliser cela, de rendre réel, quand je dis réaliser cela, ça veut dire rendre réel cette lumière. Mais qui fait ce travail? Ils viennent, poseur derrière, ils écoutent, il y en a qui dorment, et hop, un jour, ils se lancent avec un petit savoir ou un petit pouvoir spirituel. On voit ça chez les drogués, par exemple, on a eu avec Teen Challenge, on avait des jeunes gens, des jeunes filles qui venaient, qui prenaient de la drogue. Alors on leur faisait passer ce qu'on appelle le poulet froid, c'est-à-dire le sevrage. On les accompagnait. Et puis quand ils étaient propres dans leur corps au sujet de la drogue, eh bien, il restait quelque temps pour se refaire une santé. On leur apprenait les bases au sujet du christianisme. Et puis ils se savaient sauvés, c'était merveilleux. Et au bout de 6 mois, ils se sentaient tellement forts qu'ils voulaient partir évangéliser. Et puis, 3 mois après, il revenait pire qu'avant, drogué et compagnie. Voilà, s'il revenait, parce qu'il ne revenait pas des fois. C'est grave. Ben, c'est la même chose sans être drogué. Vous avez des gens, ils ont appris quelque chose, hein, de spirituel. Ils ont appris à faire quelques miracles, et puis hop, ils s'en vont. Ils pensent que. Mais c'est très dangereux. C'est très dangereux. Faire attention. L'Église, la communauté, elle a ce but, c'est d'aider. Mais ceux qui ne veulent pas être aidés, ma foi. Bon, en tout cas, ici, je me suis efforcé de vous dispenser un message clair afin que vous puissiez vivre ce message et être cette lumière. Et je le ferai tant que Dieu me prêtera vie et je ne me conformerai pas au mode religieux de notre temps. Ça, alors là, il n'en est pas question. Alors ne vous laissez pas attrister par ce qui arrive autour de vous dans le monde. Ne vous laissez pas attrister par ce qui arrive autour de vous dans l'Église. Ces choses doivent arriver. Ça doit arriver. Alors, ne vous laissez pas attrister. Branham est parti. Osborne est parti. Raphaël est parti. Mais nous sommes encore là. Pour combien de temps? J'en sais rien. Mais nous sommes encore là. Et tant que nous sommes là, soyons vraiment la lumière du monde. Amen. Jésus, je te prie de nous aider à réaliser que ces choses sont vraies. Par ton Saint-Esprit, éclaire chaque homme, chaque femme, chaque enfant qui écoute ce message, et qu'il réalise à son degré de compréhension, qu'il réalise que c'est vrai et qu'il puisse aller de l'avant. Je te le demande, Père, dans le nom de Jésus-Christ. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Sois béni et glorifié, mon Dieu. Amen. Amen.